Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
On parle du mur de la honte et chacun pourrait être étonné qu'on a simplement déplacé le problème du jardin d'Éole à la mairie de Pantin, puisque les craqueux, cette fois, ne sont plus au jardin d'Éole, mais ils se sont déplacés de quelques mètres, si j'ose dire. Charles, bonjour, vous êtes juriste à Lyon. Votre sentiment sur ce sujet ?
Bah, moi, ça fait 35 ans que je connais le problème et il n'a jamais été réglé à Paris. Héroïnomane, cocaïnomane, crack, c'est de pire en pire.
Bah, écoutez, c'est intéressant ce que vous disiez parce qu'il y a quelques secondes, pendant la pause, Amandine Bégaud disait qu'il y a 20 ans, lorsqu'elle a commencé ce métier, elle allait faire des sujets à Stalingrad et que c'était exactement le même problème. Vrai ou pas ?
J'étais en école de journalisme et effectivement, il y avait le même problème. Vous ne me rajeunissez pas, mais ce n'est pas grave.
Le rappel des titres, Amandine.
Et à la une, cette petite révolution au restaurant, les pourboires payés par carte bancaire vont être défiscalisés, c'est ce qu'annonce Emmanuel Macron. Objectif, dit le président, redonner de l'attractivité à un secteur en manque de bras qui, vous le savez, a du mal à recruter. Dans l'actualité également, les médecins d'SOS Médecins en grève, mouvement de 24 heures, ils réclament une revalorisation des tarifs de leurs déplacements. Et puis la météo, c'est avec vous, Peggy Broch. Un temps gris et bien pluvieux, sauf dans le sud-est.
Exactement, Amandine. En fait, la perturbation de ce matin, elle se décale assez vite et on la retrouve du sud-ouest au Hauts-de-France, en passant par le Limousin, la région parisienne. Alors, le ciel est chargé, pluvieux surtout sur la partie nord. Mais comme elle circule vite, après les pluies, on devrait retrouver des éclaircies dans l'après-midi, notamment sur le nord-ouest, avec toujours un peu de vent. Et puis, à l'avant de la perturbation, donc sur l'est du pays, le ciel est bien voilé au nord avant l'arrivée des pluies et plus dégagé dans le sud, près de la Méditerranée. Tout ça sous des températures en baisse par le nord-ouest, 17 à Cherbourg, 18 à Abbeville, 20 degrés à Paris et Rennes, 22 à Bordeaux, 23 à Mulhouse et Biarritz, 24 à Nice, 27 à Nîmes et Marseille et jusqu'à 28 degrés quand même cet après-midi à Perpignan.
Et pour demain, retour d'un temps plus calme et plus sec surtout.
Oui, avec pas mal de grisailles le matin, c'est vrai, surtout dans l'est et dans le sud-ouest. Ailleurs, un ciel plus ou moins voilé, mais l'impression sera souvent belle. Et puis dans l'après-midi, ça va se dégrader entre la Bretagne et les côtes de la Manche avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, des pluies plus fréquentes sur l'ouest de la Bretagne. Ailleurs, les éclaircies vont dominer. Petit bémol sur la façade est et la façade atlantique, là où les nuages seront plus nombreux. Tout ça sous des températures minimales qui vont baisser au nord. Elles seront souvent sous les 10 degrés. Et puis dans la journée, elles seront en baisse également, comprises entre 18 et 20 au nord, 20 à 23 au sud et jusqu'à 27 degrés près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Peggy.
Merci, il est 13h03. Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
En quelques heures, un mur a été construit pour tenir les toxicomanes à l'écart entre Paris et un quartier de la commune de Pantin en Seine-Saint-Denis. À la grande surprise des habitants, après plusieurs mois de tension dans plusieurs quartiers parisiens, une centaine de toxicomanes ont été évacués vendredi 24 septembre, déplacés du quartier Riquet-Stalingrad à la porte de la Villette. Donc ça peut faire sourire parce qu'on a simplement déplacé les gens. C'est 200 personnes. On ne peut pas en France régler ce problème avec 200 personnes et les mettre dans un endroit où ils pourront se soigner à l'écart pendant plusieurs mois. Charles est avec nous.
Oui, bonjour Pascal. Moi, ça me rappelle des histoires que j'ai vécues. J'ai vécu dans le centre de Paris, dans ma jeunesse, et j'ai assisté à une fusillade. C'est même moi qui ai appelé la police à l'époque. J'étais enfant. Et je peux même vous dire qu'il y a eu une victime collatérale, puisque dans la fusillade, c'est le crépier du coin de la rue qui s'est pris une balle et qui est décédé. C'était un règlement de compte entre héroïnomane, cocaïnomane, et c'était en plein centre de Paris. À l'époque, dans certains quartiers, il y avait déjà des bandes qui sévissaient, des trafiquants qui sévissaient, et puis surtout des gens qui étaient violents en état de manque. Mais alors le crack, c'est autre chose. Le crack, je le sais parce que je connais des médecins qui travaillent dans des centres pour les personnes addictes, et ils disent que le crack, c'est ce qui rend le plus violent immédiatement. D'abord la prise de la drogue et l'état de manque est épouvantable. Et donc on n'arrêtera pas ces gens-là. Donc ça n'est pas des solutions curatives d'urgence qui démontrent l'impuissance totale des pouvoirs publics à régler ce problème. Ce n'est pas des mesures comme celle-ci qu'il faut prendre. C'est évidemment de la prévention. Il faut plus de centres de désintoxication. Et puis, il faut arrêter ces salles de shoot. C'est un encouragement dans Paris, dans la capitale de la France, mais peu importe dans quelle ville, dans quelque ville que ce soit, c'est un encouragement à la consommation de drogue et de drogue dure. Donc il faut impérativement cesser le débat sur la légalisation des drogues dites douces, et puis d'autre part faire de la prévention et de la désintox. Si on ne fait pas de désintox, on ne réglera pas le problème. En fait, on ne le prend pas du tout par le bon bout. On a l'impression que c'est des incompétents qui agissent. C'est déplorable, ce mur. C'est vrai que c'est le mur de la honte. Je suis d'accord, moi, sur cette appellation.
Moi, ce que je trouve sidérant, en fait, c'est toujours l'État qui est très fort pour des choses parfois dérisoires et qui est très faible pour des choses importantes. Voilà, je citais tout à l'heure l'exemple du pass sanitaire qu'on doit avoir pour prendre un café en terrasse. Là, l'État, il est très fort pour ça, pour nous imposer parfois ce type.
C'est l'impression que ça donne.
Voilà, et en revanche, il donne une image d'incapacité à régler un problème qui est terrifiant. Ce ne sont que 200 personnes. 200 personnes. C'est-à-dire que tu ne peux pas régler en France un problème qui concerne 200 personnes. Tu ne peux pas les mettre, comme je le disais tout à l'heure, dans un lieu d'hébergement, les soigner, etc. C'est sidérant ce qu'est l'État français.
Attention Pascal, parce que là on focalise, et les médias et les journalistes qui sont chargés d'enquête focalisent sur un quartier de Paris. Moi j'ai des amis qui sont partis de Grenoble parce que ça devenait invivable. Ouais, il y a d'autres quartiers en France qui sont pris de violence dans les quartiers. Il n'est même plus question de promener les familles ou les enfants. Ce sont des quartiers qui deviennent totalement insalubres.
Bien sûr. Mais vous passez par de la Chapelle. En fait, il y avait ce week-end un congrès, je crois, qui réunissait international avec des Suédois, des Américains. Les gens qui passaient devant Pantin n'en croyaient pas leurs yeux. Ils disaient, c'est ça la France.
J'y suis passé. C'est dantesque en voiture.
C'est la France, c'est mais moi je vous assure, je ne passe plus en voiture, porte de la Chapelle, tu ne sais pas ce qui peut arriver.
Absolument.
Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Donc,
ils approchent des voitures, on ne sait pas du tout comment
bien sûr,
ils vont se comporter.
Si tu freines, s'il y a un embouteillage, etc., tu ne sais pas ce qui peut se passer. Donc je trouve ça absolument sidérant. Et quand j'entends le ministre de la Justice ce matin avec Alba Ventura qui explique que c'est simplement transitoire et que c'est une disposition d'urgence, t'as envie de lui dire mais ça dure depuis des mois. Des mois, ça durait au Jardin des Halles. Donc c'est absolument incroyable. Merci Charles. Merci, on a beaucoup de sujets aujourd'hui. Vous pourrez parler de cyclisme si vous le souhaitez avec Julien Alaphilippe. C'est un thème un peu plus léger. Est-ce qu'il est aussi bon que Bernard Hinault? Pourquoi pas. Il y a un sujet également avec Éric Zemmour qui était à la journée du conservatisme qui est revenu sur les lois mémorielles. Mais surtout, il a dit les Républicains ont trahi De Gaulle et les Républicains ont trahi le RPR. Donc ça peut vous faire réagir. Le milieu de la restauration peut-il attirer de nouvelles personnes avec la défiscalisation, notamment des pourboires? Ça, c'est intéressant comme sujet. Donc appelez-nous, on est ensemble jusqu'à 14h30. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le sujet qui vous fait réagir. On l'appelle le mur de la honte. Un mur a été construit vendredi entre Paris et Pantin pour boucher un tunnel et ainsi empêcher les consommateurs de crack de passer. Les riverains réclament une solution pérenne. Que pensez-vous de cette décision? Peut-on parler de mur de la honte? La réaction du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, invité de RTL ce matin avec Alba Ventura.
C'est une solution forcément transitoire, ça ne peut satisfaire personne. Et on est là dans une espèce d'urgence. Et il faut répondre pour le moment dans l'urgence. Et moi, j'y répondrai de façon plus précise dans les jours qui viennent.
La réponse sécuritaire est-elle bien appropriée? Non, pour Bertrand Kern, le maire socialiste de Pantin, invité de RTL Midi.
Il faut arrêter de prendre ce problème par le biais de la sécurité. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui doit régler ce problème. C'est au niveau du Premier ministre et du ministre de la Santé. Il doit y avoir un capitaine qui nous dise voilà, on a un problème avec les craqueurs en France depuis plusieurs années, et maintenant on a décidé de prendre le problème à bras-le-corps et de mettre en place un centre d'accueil qui fasse une réponse sanitaire, médicale et sociale à ce problème.
Et vous pouvez réagir dès maintenant au 3210 3210.
Nous sommes avec Michel. Bonjour Michel, vous habitez juste de l'autre côté du mur, si j'ose dire.
C'est-à-dire, moi j'habite rue de la Chapelle.
Oui, mais alors il faut que vous nous disiez rue de la Chapelle par rapport à l'endroit où sont les craqueux.
Je suis à 3 minutes des craqueux.
D'accord.
Je suis à côté de la rue Riquet. La rue Riquet commence là, parce qu'on peut aller au boulevard de la Chapelle. Moi, j'habite là depuis 40 ans. J'ai mon quartier qui a complètement changé. C'est un quartier pourri. On n'a pas peur, mais on appréhende. On appréhende de sort. Moi, je me suis fait déjà braquer deux fois. Pas braquer, enlever des petits bijoux que j'avais, que je ne mets plus de toute façon, mais j'ai pas eu peur. Hein. Mais maintenant, lorsque l'on sort dans notre quartier, rue de la Chapelle, rue Riquet, on n'y va jamais le soir. Et on appréhende. Maintenant, on regarde devant, on regarde derrière. Et il y en a déjà beaucoup qui sont partis. J'ai une amie qui a une association à la porte de la Chapelle. Par contre, là, ça marche très, très bien. Il y en a beaucoup qui apprennent le français. Nous, ce que l'on veut, on veut plus de notre quartier, qu'on les emmène dans le 6e, qu'on les emmène dans le 16e. On ne veut plus rien dans notre quartier. À la Chapelle, il y avait ils étaient là depuis longtemps. Toutes les tentes étaient dehors sur le périphérique. Moi, je me suis fait pas attaquer. Moi, si, un petit peu attaqué en allant voir Nagui, parce qu'on y est allé à pied. Bon, ça s'est bien passé. J'ai pas eu le temps de réagir. Ils m'ont pris mon truc et puis ils sont partis, c'est tout.
Michel, je peux donner votre âge à l'antenne ?
Moi, j'ai 83 ans.
Donc, vous avez 83 ans. Vous avez une voix incroyablement jeune, d'ailleurs.
Je suis jeune. Je veux pas être une vieille bique.
Mais vous vivez dans un appartement ?
Oui, dans un appartement de 4 étages où ça se passe très très bien, j'ai de bons amis. Je vous dis, j'ai perdu mon mari du Covid, donc je suis un peu très très dans la peine depuis peu près d'un an. Là je vais repartir à Paris, là je suis à Saulieu. Je repars à Paris dimanche. Et j'ai une amie qui partait en vacances mais qui est à nouveau là. Elle m'a dit, tu vas voir, c'est encore pire qu'avant.
Mais ces appartements aujourd'hui, ils sont invendables, j'imagine ?
Si, on les vend. On les vend. Il y a des gens qui aiment quand même parce qu'ils n'ont pas l'habitude. J'ai en bas de chez moi, il y a un loft. Ce sont des amis qui sont là, jeunes. Et, enfin, jeunes dans les 40 ans, 45 ans, c'est jeune. Très, très jeune. Et donc, bon, ils ne savent pas tout ce qu'il y avait avant. Et puis bon, ils partent. C'est pas pareil, ceux qui arrivent maintenant et ceux qui sont restés. Nous, notre quartier a complètement changé.
En combien de temps ?
Oh, ça fait 15 ans. Il y a eu le jardin Éole qui était très bien. Et là, il y a un autre parc qui s'est ouvert. C'est le parc, je suis un petit peu émue. C'est le parc Charbon. Ça s'appelle la Chapelle Charbon. Mais ça va être pareil. Là, comme mon amie, elle prenait un petit peu soin de moi, je sortais avec elle. On y allait, c'était bien. Mais s'il n'y a pas de gardien, si les gardiens viennent que de temps en temps, ça va être comme le parc Éole. Pour l'instant, il est très bien. Il se trouve presque à la porte de la chapelle. Enfin, là, c'est pareil, ça fait la même distance de moi que jusqu'à Éole. Donc, il est bien. Mais, il faut que des gardiens soient là, sans arrêt, qu'il y ait des gardiens qui font des rondes. Vous voyez,
et pourquoi pas même des policiers ? Je ne sais pas si vous rencontrez des forces de l'ordre.
Une fois, on était allé là-bas avec mes deux amis et on était assis, on avait été se promener un petit peu. Et en effet, il y a deux policiers, mais il n'y en a pas souvent. Il faut que ça soit gardé. Mais Éole, c'était beau, c'était grand, c'était bien. Mais maintenant, ça fait des années qu'on n'y va pas. Nous, ça ne fait pas que 3 ans, hein, ça fait des années.
Mais c'est ça qui est absolument sidérant, parce que vous n'y allez pas depuis des années, parce que ce problème existe depuis des années. C'est ce que disait Amandine Bégaud tout à l'heure. Elle a fait des sujets il y a 20 ans quand elle était en école de journalisme.
Voilà, exactement. Ça a commencé à se dégrader notre quartier. Parce que mes enfants sont allés à l'école à la rue Max Dormoy, au collège. Et tout ça, ça allait bien. Avant, il y avait aussi des étrangers, mais pas tant. Autant on nous met tous. Mais il y en a qui sont très, très bien. Je ne suis pas raciste. Mais on nous met... Dans notre rue, il n'y a que ça. On sort... On n'entend plus parler français, on n'entend plus parler. Par contre, j'ai une amie qui a une association à la porte de la chapelle, dans le grand immeuble qui est là. Bon, il y en a qui sont très très bien, qui viennent là.
Mais sûrement d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous dites quand vous sortez de votre immeuble, vous ne rencontrez dans la rue que des gens issus de l'immigration. C'est ce que vous dites.
Exactement. Il y a plus de magasins chez nous. Bon, il y a toujours ces magasins tunisiens, marocains qui sont dans la rue de Max Dormoy. Bon, ils sont bien, on y va. Mais, il n'y a plus rien derrière le Monoprix. Il y a un Monoprix aussi. Il y a toute une masse qui est là. Bon, ils ne nous disent rien. Je ne peux pas dire qu'ils disent quelque chose. Mais on n'est plus dans notre quartier. On n'a plus rien dans notre quartier.
C'est pour ça que ces témoignages sont intéressants, parce que vous témoignez d'un sentiment de dépossession qui existe, qui est parfois partagé. Alors évidemment, c'est pas dans tous les quartiers de France, c'est pas dans toutes les villes de France, mais dans certaines villes, dans certains quartiers, vous êtes confronté à la réalité que vous venez de dire, Michel.
nous met tout dans le 18e. On va encore les mettre à Aubervilliers, mais c'est à 10 minutes de chez nous. Pantin, tout ça, c'est à 10 milieux. Avant, c'était pile à la porte de la... Il y avait un chapiteau rond, là. Puis on s'était dit, pour les Jeux, il y aura... ça va un peu s'améliorer. Et puis tiens, j'entends depuis même plusieurs mois qu'il y avait une piscine. Elle ne va plus avoir lieu. Il y a encore plein de choses qui devaient avoir lieu, n'ont pas lieu.
Michel, on va marquer une pause. Restez avec nous, parce que la force de ce que vous dites et le témoignage que vous apportez sur l'antenne sont intéressants. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Quand on entend Michel, quand on comprend que depuis des années, il y a un problème, que ce problème n'est pas réglé. Et que parallèlement, des beaux esprits viennent expliquer que les gens ne viennent plus voter et que l'abstention est un drame. Mais pourquoi ces gens ne viennent-ils plus voter? Peut-être parce que les problèmes du quotidien ne sont pas réglés. Laurent Tessier.
Et vous pouvez continuer évidemment de réagir sur ce sujet des consommateurs du crack, comme d'ailleurs d'autres sujets qui peuvent vous interpeller au 3210 au standard. Éric Zemmour, qui continue d'entretenir le flou sur une candidature à la présidentielle, mais lance de petites attaques. Le polémiste s'en est pris hier aux Républicains chez nos confrères de CNews.
Aujourd'hui, on voit bien qu'est-ce que c'est devenu LR. C'est un parti de notables centristes qui après prétendent que je ne partage pas leurs valeurs. Mais eux-mêmes, en quoi partagent-ils les valeurs du RPR et de la droite d'avant? Non, ils ont eux-mêmes trahi le général de Gaulle et même Georges Pompidou.
Mais... LR, un parti de notables centristes, partagez-vous cet avis? Si vous êtes membre des Républicains ou sympathisant, comment réagissez-vous? 32-10.
Non mais ça, c'est un bon sujet. C'est vrai que la ligne centriste a plutôt gagné chez les Républicains que la ligne RPR droite des années 80.
Les mots sont forts, on parle de trahison.
Oui, mais il y avait le problème, c'est qu'avant, il y avait deux familles. Il y avait l'UDF et le RPR. Et ça, c'est devenu l'UMP. Et effectivement, l'UMP a été fait pour placer le candidat de droite en tête du premier tour lors de l'élection présidentielle. Ça a plutôt bien marché, d'ailleurs, notamment avec Nicolas Sarkozy. Mais c'est vrai que dans ces deux familles, ne s'y retrouvent plus toujours. Mais c'est un sujet donc pour nos auditeurs. Je termine avec Michel. Je vous remercie, Michel, beaucoup de votre témoignage. Que vous dites est effarant et j'ai envie c'est pas très rigolo pour vous, d'autant que si ça fait 40 ans que vous êtes là, que vous ne reconnaissez plus votre quartier.
Ah non, en plus, il est bien, moi j'aime mon quartier,
mais bien sûr.
La gare du Nord, gare de l'Est. Je suis pas contre Hidalgo, je suis pas pour. Elle nous a enlevé le 65 qui nous emmenait de la porte de la gare de Lyon à Aubervilliers. Maintenant, il faut changer deux fois pour aller à la gare de Lyon. Elle nous a enlevé le 65. Enfin, rien ne va plus dans notre quartier. Rien.
Le charme du quartier populaire y avait dans Max Dormois dans le temps, qui était un quartier plutôt sympathique en plus.
On avait un cinéma, il y a le Sacré-Cœur qui n'est pas loin, on y va. Nous marchons beaucoup, il y a le Sacré-Cœur qui n'est pas très loin. Il y a plein de gens, mais il y a beaucoup de gens qui s'en vont. Beaucoup.
J'imagine. Et vous avez la tentation de partir, Michel?
Mais oui, mais moi j'ai la tentation, on aurait peut-être eu la tentation dans 2-3 ans, mais j'ai perdu mon mari du Covid. Et donc, ici, à la campagne, c'est triste l'hiver. Alors je garde la maison parce que j'ai des très très bons amis, des vrais amis, vous voyez. J'ai travaillé à la Sorbonne. Tiens, si je peux envoyer un petit message.
C'est-à-dire que là, vous êtes à Saulieu, ce que vous voulez dire, c'est
oui, je suis à Saulieu.
Voilà, vous êtes à Saulieu, et puis l'hiver, vous êtes en appartement parce que c'est triste la campagne, c'est ce que vous me dites.
Bah voilà, et puis là, vous voyez, j'attends une amie qui va venir me chercher pour faire des courses, pour aller se promener un petit peu à 13h30, vous voyez.
Et vos enfants sont dans Paris?
Non, moi j'ai un fils qui est à Marseille, qui est prof de musique, et puis l'autre qui est à Saulieu.
Ouais, donc vous êtes toute seule à Paris.
Oui, mais j'ai mes amis, j'ai mes amis qui sont à 3 minutes, de très très bons amis. C'est pour ça que je peux lancer un tout petit message.
Je vous en prie, Michel.
Bien, je voudrais dire que ceux qui vont me reconnaître à la radio, j'ai travaillé à la Sorbonne pendant très très longtemps, j'ai eu de très très bons rapports. Donc s'ils me reconnaissent, je les embrasse tous et je pense souvent à tous ceux qui ont travaillé avec moi. Voilà. Et puis à tous mes amis qui me reconnaîtront, qui sont à Paris.
Eh bien, merci Michel de votre témoignage. C'est la première fois que vous nous appelez?
Non, j'avais appelé une fois pour le Covid, là, pour mon pari, mais j'avais pas voulu passer à l'antenne.
Oui, parce que j'ai l'impression que c'est la première fois que je vous entends et je suis assez touché par ce que vous nous dites.
Et oui, mais je peux pas aller vous voir une fois à RTL.
Moi, mais bien sûr, bah, théoriquement, c'est pas le sens de. Si tous les auditeurs viennent jusqu'à nous, ça va être compliqué. Mais vous êtes tellement gentil, tellement adorable que j'ai envie. Ça m'est difficile de vous dire non. Donc, je le dis sous le contrôle de Laurent Tessier. Pourquoi pas, venez un jour dans notre studio et puis on fera les auditeurs ont la parole avec. Vous serez invité du studio.
Voilà, je peux vous donner mon numéro de téléphone de Paris.
Ah ben là, vous n'allez pas le donner à l'antenne, on va le garder. Et je prends l'engagement. C'est, vous savez, c'est un peu, j'ai l'impression d'être Thierry Lhermitte dans SOS Amitié. Oui, quand il dit, mais c'est interdit, vous n'avez pas le droit de venir. C'est interdit. Et puis finalement, il craque en disant, venez quand même. Et ben là, c'est pareil. Parce que si tous
les grosses têtes, quand vous étiez aux Champs-Élysées, puis j'allais à Europe 1 aussi.
Ah oui, ben ça, c'était autre chose.
C'est autre chose.
Ouais, parce que vous disiez que vous alliez à RTL quand vous étiez sur les Champs-Élysées.
Oui, quand on était
rue Bayard,
Pascal.
Rue Bayard.
Oui, j'y suis allée.
Rue Bayard. Mm-hmm. Rue Bayard.
Oui, Rue Bayard.
Bon, bah, écoutez, Michel, d'abord, vous avez une voix jeune, sympathique.
Oui. Mais je suis jeune.
Ben bien sûr, ben exactement. Mais c'est, je suis bien d'accord avec vous. Donc moi, ça me ferait plaisir que vous veniez nous voir.
D'accord.
Bon, ben je vous fais des bisous.
Moi aussi, Pascal. Voilà.
Merci, Michel.
À bientôt, Pascal.
Il est 13h26. Merci.
Au revoir.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Vous voyez, on est récompensé dans cette émission parfois par un auditeur ou une auditrice qu'on n'attend pas et qui nous apporte un peu de gaieté, de joie de vivre, d'énergie également. Et puis une manière sans doute de voir la vie positive.
On attend Michel maintenant.
Maintenant, ben, on attend Michel que saura recevoir celui que Laurent Tessier appelle Monsieur Boubouk.
On enverra Olivier
qui sera son chevalier servant ce jour-là, puisque si j'ai bien compris, Olivier cherche lui-même, pourquoi pas, une compagne.
Oui, tout à fait.
Donc Michel me paraît peut-être adapté à une rencontre, en tout cas amicale. Bonjour Olivier, vous allez bien ?
Bien et vous, Pascal ?
Vous avez passé un bon week-end ? Vous étiez au Louvre, m'avez-vous dit vendredi ?
Alors oui, bien sûr, j'étais au Louvre,
vous
Pascal.
Vous avez préféré certaines salles à d'autres ? Vous êtes allé visiter quel type de salle cette fois-ci ?
Oui, mais après on va pas s'étaler, Pascal. Voilà, j'ai visité le Louvre, c'était très bien. Vous n'allez pas me demander chaque week-end,
mais
chaque lundi.
Mais c'est vous qui vous avez dit vendredi, je vais au Louvre.
Mais vous me testez sans cesse, Pascal. Mais arrêtez.
De rien du tout. Vous nous avez dit ça. Le public est en haleine.
Mais j'ai mon jardin secret, Pascal. Je vais dans les salles que je veux. Non mais oh.
Il se rebelle. Il est 13h28. À tout de suite. Appelez-nous sur tous les sujets, bien sûr. Et pourquoi pas sur Julien Alaphilippe, qui pourrait gagner le Tour de France un jour. Pourquoi pas, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec Marc qui est policier. Bonjour Marc. Marc n'est pas là. Donc nous allons être avec Laurent peut-être. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour Monsieur Pro, bonjour aux auditeurs.
Merci d'être avec nous. Vous avez entendu Michel, c'était
assez
émouvant ce témoignage. Quel est votre sentiment sur ce mur ?
Ben, j'ai entendu votre journaliste aussi, ça va me permettre moi aussi de prendre un coup de jeunesse. J'ai travaillé dans une autre vie. Dans une agence bancaire à Stalingrad, il y a 27 ans.
Ouais.
C'était un autre, d'autres substances qui circulaient. Mais le soir, quand on, surtout dans la période qui va arriver, la période de l'hiver, là, quand on sortait le soir, déjà sous les portes cochères, il y avait tous des camés, des gens dans des états un peu pitoyables. Donc le quartier était pas. Le quartier était agréable, hein, ça c'est certain. Mais alors. Il y avait une autre chose dans ce quartier-là à l'époque. Alors, je prétends pas que ce soit la solution, mais il y avait un gang de motards qui avait son bar là-bas et qui faisait régner un certain ordre, disons.
Oui.
C'est-à-dire, dès qu'on leur empiétait un petit peu sur les orteils, ils n'hésitaient pas. Moi, je me souviens les avoir vus sortir une nuit avec des clubs de golf à la main. Je ne savais pas qu'il y avait un practice dans le coin. Inutile de vous dire que ça a dû dérouiller de l'autre côté. Alors, je ne dis pas que c'est la solution, mais en ce qui concerne ce mur, moi, j'aurais un truc à suggérer aussi. Pourquoi pas des filets de camouflage au-dessus pour pas que ça se voie vu d'avion ? Parce qu'il est facile de rejeter chez les autres. Je vais faire de la redite, en fait. Il est facile de rejeter chez les autres ses propres problèmes. On nous dit qu'il va y avoir... Enfin, on nous dit, ça va être le cas, les Jeux Olympiques. Il y aura du boulot. Pourquoi ne pas mettre ces gens, ces toxicomanes, en désintoxication, dans des structures spécialisées, comme le disait le maire que vous avez reçu tout à l'heure, et ensuite leur proposer un boulot à la clé. Du travail, il va y en avoir. Bon. Donc, c'est assez curieux, ce principe on fait un mur, généralement, pour se protéger. C'est le principe d'un mur, ou pour protéger sa propriété. Là, on fait un mur. Ma première réaction, quand j'ai entendu cette histoire de mur, je me suis dit que c'était bien la peine de descendre celui de Berlin, qui a fait polémique et coulé tant d'encre pendant des années, pour nous faire ça chez nous. C'est quand même assez fort.
Avec le parallèle avec le mur de Berlin, je le laisse. Mais en revanche, ce que je trouve incroyable, et on le dit depuis tout à l'heure, c'est d'avoir déplacé le problème de quelques mètres. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est absolument fou. On va répéter ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc,
On vide sa poubelle chez le voisin.
Puis tu t'aperçois, quand tu rentres dans le détail, ce que disait Michel, c'est que ça existe depuis 10 ans, 15 ans. Et c'est ça qui est absolument incroyable.
27 ans, c'était d'autres substances. Mais
alors évidemment, ceux qui dirigent n'habitent jamais ces quartiers-là. Donc, ils en sont dans le 6e arrondissement, dans le 7e, dans le 16e. Je suis comme eux, j'irai pas porte de la Chapelle aujourd'hui. J'irai pas acheter un appartement là-bas ou louer un appartement là-bas.
Je vous ai vu il y a quelques. J'avais pas été pris à l'antenne à l'époque. Moi, je suis béarnais, au Béarn, c'est-à-dire le pays de l'ours. Oui. On nous a remis des ours chez nous, et comme j'avais dit votre journaliste à l'époque, ça l'avait fait rire. Si l'écologie. Bon, je sais que chez moi, les vieux paysans disent on a mis des années à s'en débarrasser, maintenant qu'il n'y en a plus, on nous en remet. Mais mettez des ours dans le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, vous verrez, il y aura moins de problèmes la nuit.
Oui.
Mais écoutez, au lieu de, c'est bien de mettre les ours chez les autres. C'est un peu le même système.
Qu'on mette des ours bordes de la Chapelle, mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Cette émission est étonnante, Laurent. Franchement, il y a des surprises, parfois des bonnes surprises, et puis parfois des sourires qu'on n'attend pas. Vous êtes quand même le premier auditeur qui propose de mettre des ours, et pourquoi pas des loups, si vous voulez, porte de la Chapelle.
Les loups sont entrés dans Paris, disait la chanson.
Bon, merci Laurent, en tout cas. Vous êtes artisan.
On essaye de se maintenir.
Et alors là, vous êtes dans quel secteur d'activité?
Ah mais je vous l'avais dit, je vous ferai votre épée d'académicien un jour si vous rentrez.
Ah oui, l'épée, c'est vous qui faites l'épée. Ah ben non, mais l'Académie française, il y a peu de chances que j'y rentre. Non, c'est pas, a priori, c'est
pas
mon casting.
Il n'est jamais trop tard. Plus, ils renouvellent les cadres en ce moment.
Oui, mais bon, je suis pas sûr que j'aurai des voix.
Et vous avez des amis qui vont
Je ne suis pas sûr d'avoir des amis non plus, Laurent. Mais bon, c'est un autre problème.
Pascal.
C'est un autre problème. Merci Laurent. Alors, Damien Béchiot, manifestement, est un ami, donc c'est bien. Notre ami réalisateur. Mais j'ai beaucoup de plaintes parce que l'année dernière, on avait quand même un peu plus de chansons que cette année. Donc beaucoup disent la saison.
Place à l'auditeur, Pascal.
La saison se passe sans musique et Damien Béchiot, qui est le grand coordonnateur de notre émission, ça peut être sa mission peut-être de mettre de temps en temps. Bah pourquoi pas, ça donne un petit peu de légèreté à nos discussions. David est là, bonjour David.
Bonjour David, bonjour Pascal.
Ah oui, oui. Moi c'est pas David, mais ça peut le devenir.
Il devait avoir de l'hélico peut-être.
La pause et on revient tout de suite.
Oui.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Monsieur Tessier.
Le milieu de la restauration peut-il attirer de nouveau? Vous êtes patron d'un restaurant, avez-vous des difficultés de recrutement? Pour redonner un peu d'attractivité, les pourboires payés par carte bancaire seront défiscalisés, annonce ce matin d'Emmanuel Macron.
C'est une mesure, je le dis très fortement, qui ne coûte rien, parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc en effet, on ne va pas payer des charges et des impôts sur quelque chose qui aujourd'hui n'est pas versé. Si c'est versé, c'est du pouvoir d'achat en plus pour des femmes et des hommes qui travaillent et dont le client reconnaît le travail et a envie de rajouter à ce que paye l'employeur. Donc honnêtement, c'est que du positif. Et c'est ce qui va aussi vous permettre d'attirer plus de jeunes et de moins jeunes pour leur dire « tu peux gagner beaucoup plus que le salaire ». Et le bonus que je te verse.
Des pourboires sans charge pour les employeurs, sans impôts pour les salariés, mais les clients en donnent-ils toujours? Samy est serveur à Paris et avec le paiement récurrent par carte bancaire, les pourboires sont moins nombreux.
Avant c'était beaucoup plus. Avant double ou triple. Maintenant en carte bleue on paye vraiment le pile poil. Si c'est 21,40€, ça va être 21,40€ et voilà.
Le milieu de la restauration peut-il attirer de nouveau? 32,10, 3,20€.
Est-ce que vous donnez du pourboire?
C'est vrai qu'avec le paiement par carte bleue, on n'a plus le réflexe de donner un pourboire.
C'est une question qu'on peut poser aux auditeurs également parce que j'ai l'impression que c'est une pratique qui a un poil disparu. Et c'est vrai que c'est bien de laisser un peu de pourboire. Alors, il ne s'agit pas de laisser beaucoup d'argent, bien
non,
sûr,
mais
c'est
symbolique à partir du moment où le Exactement. Service a été excellent, qu'on a eu un bon accueil.
Exactement, et c'est vrai que c'est un métier dur, la restauration, sympathique, et qu'il faut aider. David va être le dernier sur notre sujet du mur, le fameux mur de Pantin. Bonjour.
Oui. Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Mais c'est moi qui vous remercie. Alors vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de musique. Moi je trouve qu'on aurait pu mettre quand même The Wall de Pink Floyd.
Ah oui.
Pour tout de suite, là ça aurait été quand même
bonne
bien.
Idée. Mais on va le mettre, tiens, The Wall. Écoutez, mais on ne voulait pas trop ironiser sur un sujet comme ça. C'est pour ça que c'est la difficulté, c'est toujours de The Wall, c'est une musique formidable. Hein. 78 ou 79 peut-être, The Wall. Et forcément, c'est ironisé sur un sujet qui est un peu grave. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours parfois un peu réticent. Mais je retiens votre idée, on va le passer.
Je vous remercie, Pascal.
Que pensez-vous de ce mur du crack, si j'ose dire ?
Ah ben moi, je me dis, on est à 6-7 mois des élections. Hein. Donc là, on va commencer à bouger un petit peu les murs, si je peux me permettre encore une fois cette expression. C'est clair qu'on a eu la visite de la blonde, on a eu la visite de la brune. Avant que la brune arrive...
Soyons élégants avec Mme Le Pen et Mme Hidalgo. Vous avez d'un côté Mme 4% et Marine Le Pen. Donc,
moi, je parlais plutôt de Mme Pécresse. Qui était,
ah oui, Mme Pécresse. Ah oui, je pensais...
Ah ouais,
oui, d'accord. Voilà.
Non, mais qui sont venus pour voir ce qui existe depuis 20 ans. Hein. Donc, on change pas le gouvernement. Un gouvernement qui voit seulement la réalité de la vie en face 6 mois avant les élections. Autrement, on se voile les yeux, on veut pas voir, on se cache de tout. Alors, le problème qui se passe, regardons un petit peu. Donc, le mur est arrivé. Hein, c'est arrivé par monsieur l'Allemand, mais l'Allemand a fait ce mur à cause de monsieur Darmanin, hein, de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui a donné donc cette autorisation de faire ce mur pour couper cette artère qu'il y avait entre deux zones. Malheureusement, là, il y a des gens qui se droguent avec du crack. Et puis, qui dit drogue dit violence, vol, prostitution et tout ce qui va autour, hein, bruit et tout ce qui s'ensuit. Donc moi, déjà, je pense aux gens, aux personnes qui vivent dans ce quartier-là, que ça doit être insoutenable. Comme on a entendu Michel qui nous dit, quand je sors, j'ai l'impression d'être plus en France. Je suis désolé de dire, mais elle l'a bien dit. Donc c'est un petit peu le problème, c'est que voilà. Moi, ce qui me gêne, c'est quand Madame Hidalgo et Madame Pécresse viennent, on voit au loin les dealers qui vendent encore leur drogue. Donc ça veut dire, qu'on se charge de ces personnes qui sont droguées, qu'on traîne vraiment la patience. En France, d'après les statistiques, hein, si j'ai bien tout retenu, il y a 43 000 consommateurs de crack, dont 13 000 en Île-de-France. Là, on parle de 200 personnes. Vous imaginez le dégât qu'il y a dans l'Île-de-France ?
Bien sûr,
mine
bien
de
sûr.
Rien. Hein, vous imaginez un petit peu.
Ah non, mais c'est terrifiant.
Non, mais c'est terrifiant. Bientôt, il va y avoir les Jeux Olympiques. Mm. Quelle image de Lille, de Paris. Mais comment les gens, les Européens, les Américains, les Japonais, comment ils vont percevoir notre belle capitale, qui était belle, qui était propre, qui était... Alors, je ne vais pas faire de l'ironie, mais Mme Hidalgo, il faut vite qu'elle... Je ne sais pas, il faut qu'elle se lance dans autre chose, mais il faut qu'elle arrête.
Elle a été réélue, je le rappelle, mais c'est vrai qu'on traverse une période particulière où Paris est sale, disons-le, Paris est embouteillé, Paris est... Il y a un site qui s'appelle Ça cache Paris, je crois, qui répertorie toutes les difficultés parisiennes, mais c'est vrai que là encore... Moi, vous savez, je suis à Paris depuis 86.
Je vous plains maintenant.
Franchement, j'ai jamais vu Paris dans cet état-là. Je peux pas vous dire autre chose. Je n'ai jamais vu Paris dans cet état-là. Donc moi, je veux bien qu'on me dise c'est particulier. On fait des travaux. Ça sera pas toujours comme ça. Pourquoi pas? Mais il y a des quartiers dans lesquels on ne va plus. Effectivement, la porte de la Chapelle, je le disais tout à l'heure, on n'y va plus. On ne peut pas y aller. On contourne. On fait attention de ne pas être dans un embouteillage parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Merci, David.
Est-ce que je peux me permettre une chose?
Oui,
quand même,
permettez-vous.
Alors,
Alors, il faut se permettre.
Moi, j'ai entendu ce matin que M. Dupond-Moretti va trouver une solution rapidement. Mmh. Alors, moi, ce que j'ai peur quand même, c'est qu'il a été mis en place, il n'a pas trouvé beaucoup de solutions pour
ce qui est... Mais ce n'est pas lui, surtout, de la trouver, les ministres de la Justice.
Non, c'est peut-être M. Véran qui va essayer de voir ce qui se passe. Mmh. Ça peut être monsieur aussi Darmanin qui peut voir
c'est
aussi...
C'est plus au ministre de l'Intérieur, je pense, de trouver un endroit d'hébergement, j'imagine. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste.
Ce trafic de drogue, parce que s'il y a des drogués, c'est qu'on vend de la drogue, on est bien d'accord. Donc si on arrêtait un petit peu cette vente de drogue...
Mais oui, c'est aussi une hypocrisie, vous avez parfaitement raison. Merci David. Enfin, vous nous avez suggéré The Wall. Et ça va nous remettre au moins un peu de baume au cœur. Je crois que c'est 79 The Wall. Alors, Olivier.
Oui.
Olivier, qui est une nouvelle voix, je le dis quasiment tous les jours.
Oui, tous les jours. Il faut le rappeler, c'est normal.
Voilà. Ben
c'est vraiment normal.
Vous êtes l'homme de Facebook.
Eh oui, j'ai fêté mes un mois d'antenne ce week-end avec Laurent et Damien Béchiot. Ben si.
Ah, je n'ai pas été invité, Olivier.
On ne vous a pas appelé, Pascal, parce que vous couchez très tôt. Et donc,
un mois d'antenne, vous savez, c'est formidable. Est-ce que vous appelez votre famille lorsque vous passez à l'antenne?
Alors, ça dépend. Quand je me trompe de référence, qui arrive à peu près tous les jours, j'évite. Hein.
Bon, les jeunes journalistes, on appelait, ce qui est bien normal d'ailleurs, on appelle sa famille quand on a 20 ans, 21 ans. Ah, écoutez-moi, la télé, la radio, je vais passer pour la
première fois. Ce n'est pas trop mon cas pour l'instant, peut-être plus tard.
Hein. Oui, moi je comprends que vous ne leur disiez pas ce que vous...
Eh bien, c'est gentil, merci des encouragements. Les réactions sur notre page Facebook, Pascal. Pour Laurent, la vraie honte, ce n'est pas ce mur, mais les consommateurs de crack qui rendent la vie impossible aux résidents. À l'inverse, Cédric nous écrit, cette installation nous ramène à des heures sombres de notre histoire. Dans le même sens, pour Elisabeth, on a beaucoup critiqué Trump, mais on fait la même chose ici à Paris. Et on termine avec Jean-Hervé, ouvrons des centres de désintoxication au lieu de bâtir des murs.
Eh bien, merci Olivier. On va parler de Éric Zemmour.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
C'est un sujet récurrent qui arrive entre le 15 septembre et le 15 octobre. C'est le poids des cartables.
C'est vrai, les cartables qui pèsent en moyenne 20% du poids des élèves. C'est la dernière estimation du ministère de l'Éducation nationale.
Donc un élève, ça fait 25-30 kilos, à peu près.
En dessous des 50 kilos, ce qui est sûr.
Oui, et donc ça fait 3 kilos le cartable. Quoi.
Et des sacs qui peuvent même peser aux alentours, vous allez l'entendre, de 10 kilos. Exemple avec ses collégiens.
Un jour, je l'ai pesé, il pesait environ 14 kilos.
Votre sac, il a l'air bien rempli, là.
Oui, il est rempli.
Qu'est-ce qu'on a dedans?
Alors, mes cahiers de maths, deux cahiers de maths parce qu'ils en demandent deux et pas un. Une pochette avec tous mes cours dedans, mais après, j'ai des mots parce qu'ils veulent qu'on ait des gros cahiers.
Et la FCPE, la principale fédération de parents d'élèves, voudrait une loi pour prendre en compte ce fléau. Qu'en pensez-vous?
Une loi. On va faire une loi pour les cartables.
Non, vous n'aimez pas les lois?
Non, parce
une
que ça.
Une loi de plus, une loi de trop.
Écoutez, on a tous été enfants, on portait notre cartable et puis parfois il était lourd et puis on laissait les livres à l'école. Et on les ramenait pas chez soi. Enfin, si on fait une loi pour les cartables, enfin, vous vous rendez compte, on est chez les fous.
Pensez aussi à la santé de nos enfants, cher Pascal.
Mais la santé de ton dame, tu le portes, ton cartable, il est un peu lourd, t'as 12 ans, 13 ans, tu le portes, et puis c'est pas très grave. Enfin, je sais pas.
Ce monde ne va plus.
Mais non, mais écoutez, franchement, vous vous rendez compte où on en est? À porter, les gosses, il y a 50 ans, ils faisaient les champs, les moissons, ils portaient des choses, et là, ils ont un petit cartable et on va défiler dans la rue.
Ah, 10 kilos, 10, 14 kilos, c'est quand même pas rien.
Oui, bah là, c'est excessif, 14 kilos.
Et le monde change.
Mais je suis d'accord avec vous, mais bon, Jean-Alphonse me regarde.
Je trouve ça effarant aussi, mais...
Qu'est-ce que vous trouvez effarant, Jean-Alphonse?
La loi sur les cartables. D'abord, ça sera inapplicable. Je préfère le poids de la conscience au poids des cartables.
Oh. Ah, bon, vous êtes là, évidemment. Il a élevé le débat, disons-le. Ça, on est passé d'Olivier à Jean-Alphonse, donc évidemment,
là, il a élevé le débat. Bon,
mais il sera là pour l'heure du crime. Il va nous donner dans une seconde, évidemment, le sommaire. Mais on est sur l'affaire Zemmour. Quoi, l'affaire Zemmour a parlé ce week-end, il parle tous les jours, mais il a parlé ce week-end et il a dit les Républicains ont trahi le général de Gaulle, les Républicains ont trahi le RPR des années 80. Nous sommes avec Nathalie, qui est directrice dans la communication. Bonjour Nathalie.
Bonjour Pascal.
Qu'en pensez-vous?
Eh bien, ce que j'en pense, c'est que, en effet, Éric Zemmour s'est habitué à jeter un peu des pavés dans la mare, mais qu'une fois de plus, il dit un peu les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un problème très clair d'identité de la droite de LR, hein, en fait, en France. Donc, on a un vrai problème à droite. On a des candidats comme Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse qui, en réalité, ne sont que des onglets du programme du courant du parti d'Emmanuel Macron. On le sait. Donc, c'est vrai que...
C'est pas ce qu'ils disent, hein. Ni l'un ni l'autre. Ils ne disent pas ça.
Oui,
mais vous êtes, par exemple, une électrice de droite, historiquement ?
Alors, moi, j'étais effectivement, par ma famille, une électrice de droite. Je dis bien j'étais parce que aujourd'hui, je ne sais pas ce que veut dire LR. Vous voyez, des gens comme Édouard Philippe ou comme Bruno Le Maire auraient pu représenter.
Je suis
LR.
D'accord, mais je vais essayer de comprendre votre chemin politique. Vous avez, la première fois que vous votez, c'est dans les années 80.
Oui.
Bon, vous votez plutôt Chirac ou plutôt Giscard à l'époque?
Ben, à l'époque, je votais plutôt Chirac.
D'accord. Donc vous êtes RPR.
En plus, cette tradition RPR. Oui.
D'accord. Donc est-ce que vous avez précisément le sentiment d'être trahi, puisque c'est ce que dit manifestement Éric Zemmour. Est-ce que vous trouvez que Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand ou les Républicains trahissent votre pensée politique?
Absolument.
Mais en quoi, précisément ?
Alors, on va donner un exemple. Vous voyez, par exemple, même sur cette affaire des sous-marins, là, on sait très bien que si le général de Gaulle avait été parmi nous, il aurait, exprimé un réel mécontentement, pas seulement une petite colère. Il serait peut-être sorti du protectorat de l'OTAN, en disant que, pas simplement que ça sert à rien, mais il l'aurait fait. Là, alors certes, le monde a évolué.
Bah oui, mais Emmanuel Macron, c'est lui, il n'est pas RPR, il n'est pas LR, donc...
Emmanuel Macron, non. Emmanuel Macron, non.
Et vous avez le sentiment que sur ce sujet, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse n'ont pas pris leur distance suffisante avec Joe Biden?
Absolument, absolument. Mmh. On sait très bien...
Bon, est-ce que vous avez un autre exemple à nous donner?
Moi, ce qui me gêne aussi, c'est sur les valeurs... Donc là, je parlais du souverainisme. Hein. Sur les valeurs républicaines, vous voyez, la République, bon, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, la République? Tout le monde parle de la République. Mais en réalité, on sait très bien, encore une fois, que cette droite, on va dire, qui est très proche de la mondialisation, hein, à laquelle adhère également Emmanuel Macron, donc ils sont très très proches, eh bien en réalité, ils sont soumis à cette idéologie américaine qui est très éloignée de la tradition, de la culture française, justement de la République.
Bon, on va essayer d'aller plus loin dans une seconde, après le flash plus exactement, parce que c'est une réflexion intéressante, hein, que vous menez, Nathalie, mais comme j'annonçais à Jean-Alphonse Richard, pour 14h30 et l'heure du crime, et traditionnellement il vient toujours vers 13h55 nous donner le programme. D'abord je le salue.
Salut Pascal.
Et je vous demande le programme.
Alors le programme, il est simple. Aujourd'hui on va revenir sur l'affaire de la tuerie de la villa de Louveciennes. C'était en 95, toute une famille russe abattue, 6 personnes au total tuées. On va trouver le coupable, pour la justice en tout cas, c'est le petit Alexis Polevoy, il a 16 ans et demi à l'époque des faits, sauf que le scénario qu'on va finalement lui coller, à savoir qu'il aurait tué toute sa famille par haine pour son père, ce scénario, au niveau de la balistique, au niveau des conclusions des enquêteurs, etc., ne cadre pas vraiment avec tout ça. Il va y avoir l'ombre de la mafia russe derrière cette horrible tuerie. Et le petit Alexis sera le seul condamné dans cette histoire, mais il a toujours nié les faits, après les avoir avoués, mais il a toujours nié les faits. Donc c'est une histoire russe, pour le moins étrange, dans une belle banlieue chic de la capitale.
Et on se souvient effectivement de cette affaire. Il est 13h57, on pourra parler des cartables, une loi pour les trousses, si j'ai bien compris, une loi pour les cartables. Si les cartables sont trop lourds, donc ça peut faire réagir. Éric Zemmour, bien sûr. Julien à la Philippe, si vous le souhaitez. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes la minute.
RTL. Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
Donner un coup de pouce au pouvoir d'achat des serveurs, Emmanuel Macron estime que la défiscalisation des pourboires par carte bleue va être un vrai plus pour un secteur en manque de bras. Le chef de l'État est au salon de la restauration et de l'hôtellerie à Lyon. C'est là, à la mi-journée, qu'il a bien failli recevoir un œuf lancé par un individu rapidement menotté et évacué. L'œuf a finalement rebondi sur l'épaule du président sans se casser. En Allemagne, il ne suffit pas d'arriver en tête, surtout quand l'écart est très faible. Les sociodémocrates remportent d'une courte tête les législatives. Leur chef, Olaf Scholz, espère être le prochain chancelier. Mais les tractations commencent à peine et les conservateurs de la CDU vont abattre leur dernière carte pour également proposer une coalition qui tienne la route. Il faudra peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que le successeur d'Angela Merkel n'entre en fonction. Carles Puigdemont, de retour à Bruxelles après sa brève arrestation en Sardaigne la semaine dernière. Le leader indépendantiste vit en Belgique depuis son exil, depuis 2017, alors qu'il est poursuivi dans son pays pour tentative de sécession de la Catalogne. Son avocat assure qu'il ira bien en Italie pour son audience lundi prochain, audience qui doit décider d'une éventuelle extradition vers Madrid. La météo demain. Retour d'un temps plus calme et plus sec, ça n'empêchera pas la grisaille matinale dans l'est et le sud-ouest. Ailleurs, un ciel plus ou moins voilé. Puis dans l'après-midi, bien cela se dégradera entre la Bretagne et les côtes de la Manche avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, des pluies plus fréquentes également. Les températures, elles, baisseront encore dans la journée. Prévoyez 18 à Brest, 19 à Reims et Strasbourg, 20 à Rennes, Lyon, La Rochelle également, 23 à Toulouse ou encore 27 à Toulon, les courses à Rouen, Mocanchy. Je vous donne les résultats du quintet. Il fallait jouer le 12, le 4, le 11, le 2 et le 15. Le 12, le 4, le 11, le 2 et le 15. Il est 14h02 justement sur RTL. Les auditeurs ont la parole. Dernière partie avec vous, Pascal Praud.
Merci Agnès.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie.
Et vous avez retrouvé votre discothèque, Damien Béchiot?
Oui, ça y est, je l'ai rouverte.
Moi, j'aime bien. J'aime bien. Alors, évidemment, c'est un peu classique puisqu'on est avec Nathalie, mais c'est pour ça. Nathalie.
C'est original.
Le nombre de fois, j'imagine, vos anniversaires régulièrement, ou vos dîners, le nombre de gens qui ont dû vous chanter ou vous faire écouter cette chanson.
Absolument, Pascal, absolument. D'autant que je suis née en 1965, alors. Vous voyez le nombre de femmes qui s'appelaient Nathalie à l'époque.
Ah ben, les Nathalie, les Véronique, les Isabelle, les Florence, ça c'est les années 65, ça. Dans les classes, il y avait 3-4 Nathalie, c'est un joli prénom d'ailleurs. Oui. Mais on n'est pas là forcément pour parler de votre prénom, Nathalie, même si c'est moi. Je suis un peu schizophrène, mais c'est moi qui passais la chanson avec Damien. Bon, on termine donc sur Zemmour. Vous dites, j'ai le sentiment d'être trahi, je suis une électrice du RPR, je ne me retrouve plus aujourd'hui dans Les Républicains. Alors, vous allez voter pour qui?
Je ne sais pas.
Est-ce que vous avez déjà voté Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen?
Non.
Bon, donc votre choix, ça sera ou Emmanuel Macron?
Oui.
Ou le candidat des Républicains ou Éric Zemmour?
Probablement.
Si tant est qu'il se présente.
Voilà, c'est-à-dire que là, il est en train de rabattre les cartes, il est en train de même que d'ailleurs Marine Le Pen parle comme Emmanuel Macron, hein. Il dit que voilà, qu'elle représente pas du tout justement ces idées-là. Et que effectivement, il y a un problème d'identité en fait. Il y a pas le LR a plus d'identité. Il y a pas de candidat. Alors soit il déclare.
C'est-à-dire que Macron, effectivement, a récupéré une des lignes. Et ce n'est pas un hasard si Bruno Le Maire, Édouard Philippe, Gérald Darmanin sont des anciens d'LR. Vous n'avez pas tout à fait tort. C'est le côté UDF, un peu, de ce qu'était la droite dans les années 80.
Absolument.
Il y avait l'UDF et le RPR. L'UDF est un peu passé chez Macron, c'est vrai.
Voilà. Donc, du coup, Éric Zemmour, il dit qu'il y a une place à prendre. Ça correspond à ce que pense une grande partie des Français, et il n'y a pas de candidat, c'est quand même incroyable. Donc ce qu'il dit finalement, c'est vrai.
C'est vrai pour vous, mais forcément, ça correspond,
en tout cas,
ça correspond à ce que vous pensez. Tout le monde ne pense pas pareil, puisqu'il y en a beaucoup qui sont passés précisément chez Emmanuel Macron. Merci Nathalie, merci. Vous tiens quelques notes de musique, oui.
Pascal, est-ce que je pourrais juste ajouter quelque chose?
Oui.
Je voulais quand même dire, en lisant ce qui a été écrit sur les déclarations d'Éric Zemmour hier, à ce sujet, la façon dont il est écrit donc dans la presse, hein, que Éric Zemmour est un candidat d'extrême droite, etc., je trouve ça assez choquant. Franchement, hein. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que veut dire l'extrême droite.
Mais oui, mais elle est disqualifiée. Je veux dire, vous savez, c'est très simple. Vous êtes dans une en France depuis l'après-guerre, d'ailleurs, où tous les gens de droite sont disqualifiés et parfois traités d'extrême droite. Ça a été vrai pour le général de Gaulle. Le coup d'État permanent, oui. C'est pas moi qui l'ai écrit. Il y a une célèbre conférence de presse où le général de Gaulle est obligé de dire « Pourquoi voulez-vous qu'à je ne sais quel âge je commence une carrière de dictateur ?» Ça a été le cas avec Jacques Chirac, Vachot Chirac. Ça a été le cas avec Nicolas Sarkozy. À chaque fois qu'il y a un leader de droite, il est disqualifié, on le traite d'extrême droite. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? C'est comme ça.
Mais c'est grave, je trouve ça grave.
Oui, c'est grave, je pense que c'est surtout contre-productif, parce que c'est, en fait, c'est un conservateur, Éric Zemmour, il a le droit de l'être, et le mot extrême droite renvoie à l'idéologie fasciste nazie.
Absolument, effectivement,
cette idéologie-là.
C'est la violence.
Oui, oui, bien sûr.
C'est être contre la démocratie, contre oui, le débat,
oui, bien sûr, contre la République, bien sûr.
On ne connaît pas Éric Zemmour.
Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est pas nouveau, hein, ça s'appelle... Mais personne n'est dupe. Personne n'est dupe, Nathalie. Je vous assure, les gens sont matures aujourd'hui. Ils savent que c'est ce qu'on appelle un conservateur. C'est, je ne peux pas dire autre chose. C'est un conservateur.
Absolument.
Nathalie, regardez.
Traduisez Moscou. Les plaines d'Ukraine.
Super, Beko. Beko est là, c'est le. Parmi les chanteurs morts, c'est pas, il n'a pas la place qu'il devrait avoir, Gilbert Beko. Mais c'est dommage, c'est comme ça. On va être avec Théo. Bonjour Théo.
Bonjour Pascal.
Vous êtes étudiant en droit, vous avez écouté Nathalie, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, j'en pense du plus grand bien, mais après, bon.
Vous êtes à la gare, Théo, manifestement.
Excusez-moi, je sors.
Oui, parce que vous êtes dans quelle gare, là?
À la gare de Nancy, là.
Qu'est-ce que vous faites à la gare de Nancy, Théo?
Je rentre à Strasbourg, là, pour chercher quelque chose chez moi.
Mais non, vous avez oublié quelque chose chez vous à Strasbourg et vous habitez Nancy?
Oui, ouais, en fait, j'habite à Strasbourg, j'étudie à Nancy.
D'accord, vous étudiez à Nancy, mais je ne vous entends pas très bien, là. Donc, on va peut-être marquer une pause et on va essayer de sécuriser la ligne. Ça va, Olivier?
Mais tout va bien.
Oui,
tout va bien.
Vous n'habitez pas Nancy ou Strasbourg?
Non, pas encore. Pas
vous
encore,
vous habitez Paris?
Écoutez, en banlieue parisienne, exactement, oui, c'est ça.
À 14h08, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je vais réagir, cher Olivier, ce qu'on disait sur Éric Zemmour, qui est un conservateur, là, sur les réseaux sociaux, je vois, comment pouvez-vous dire ça? C'est un fasciste! Bon. Faut définir ce qu'est un fasciste, et c'est intéressant, et ou un conservateur ou un homme d'extrême droite. Allez-y, Olivier.
Les réactions sur notre page Facebook pour Éric Zemmour est dans le vrai. Les Républicains, le parti Les Républicains n'est plus un parti de droite depuis un bon moment. Position partagée par Émilie, la vraie droite n'existe plus. C'est un parti aseptisé aujourd'hui et on termine avec Anatole. Éric Zemmour est le dernier conservateur que l'on ait en France.
Alors, nous sommes avec Émilie. Bonjour Émilie.
Bonjour Pascal.
Oui, non, elle a retrouvé la discothèque musique, complète. Là. On n'a pas eu de musique pendant des semaines, mais là, il nous fait Nathalie, Émilie. Bon, Émilie.
C'est top, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu. Merci.
Bon, vous êtes directrice d'hôtellerie. Et alors, oui. C'est intéressant. Donc, Emmanuel Macron a annoncé tout à l'heure que les pourboires seraient défiscalisés. Donc, ça veut dire quoi? Pas de charge pour l'employeur et pas d'impôt pour le salarié. C'est plutôt bien, non?
Oui, alors c'est plutôt bien, mais c'est... enfin, moi, quand j'ai vu un article passer sur le sujet, j'ai trouvé ça drôle. J'ai cru que c'était une blague au départ, parce que je me demande qui déclare ses pourboires.
Bah, c'est-à-dire que... qui déclare les pourboires? Je ne comprends pas votre question.
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pourboires, c'est souvent du cash que les clients laissent à la fin d'un repas.
Ah non, mais justement là, c'est à la carte bleue. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive, par exemple, et effectivement, je le fais. Et je laisse une certaine somme de pourboire et la facture est faite avec le pourboire et après donc le serveur va demander j'imagine à la caisse à son employeur de lui rétrocéder l'argent que j'ai laissé en plus pour le service.
Alors, ce qui se passe souvent dans ces cas-là, quand vous laissez un pourboire en carte bleue, c'est qu'on ressort la différence en cash, on fait cette manipulation.
Oui, c'est ce que je vous dis.
Mais c'est noté nulle part. En fait, le serveur prend les 5 et 10 euros dans sa poche et personne ne déclare ses pourboires. Et
depuis, c'est pour ça que c'est légaliser le black, en fait. Vous avez parfaitement raison. En fait, ça, oui, la mesure d'Emmanuel Macron, c'est il légalise le black.
Oui, et il faut quand même être conscient que ça représente pas grand chose. Pour vous donner une idée, moi je travaille dans un hôtel 3 étoiles. On est 10-12 à travailler dessus. Ça représente une trentaine d'euros par mois sur les mois en pleine saison, sur des très gros mois.
30 euros par serveur par mois de pourboire.
Oui, par personne.
Ah oui, c'est pas beaucoup chez vous. Ils donnent pas, ils laissent pas beaucoup. Ça fait 1 euro. Ça fait, ils travaillent 22 jours par semaine, par mois.
Oui, absolument.
Donc ça fait même pas 2 euros par jour de pourboire sur une journée de 8 heures.
Ah ben non, on vit plus des pourboires comme on pouvait.
Mais alors vous êtes dans quel secteur
avant, à Beaune.
Non mais vous êtes c'est café ou uniquement restaurant?
Non, c'est hôtel restaurant. C'est hôtel restaurant.
Donc il y a deux services.
Donc on fait le midi on fait 10-15 couverts et le soir on capte la clientèle de l'hôtel qui laisse un pourboire ou parce qu'il a passé un bon moment avec le serveur ou il laisse un petit pourboire le lendemain matin en réception. On partage.
Mais le repas est à combien par exemple chez vous?
Oh, on est autour des 25 euros le repas.
Donc c'est déjà un certain prix. Donc les gens laissent pas. Généralement on peut laisser 10% du prix, on peut laisser 2 euros quand même.
Non, je ne sais pas. Non, ce n'est pas la majorité des cas. Donc, c'est pour ça que cette mesure, elle me fait rire. Je ne pense pas que ce soit avec ça qu'on réussisse à régler le problème qui est catastrophique en ce moment de main-d'œuvre dans notre secteur. Vraiment, j'ai cru que c'était une blague. Ça fait 10-15 ans que je travaille dans l'hôtellerie-restauration, même dans des beaux hôtels.
Beaux hôtels, les gens laissent de l'argent.
Peut-être
parce
dans
qu'ils
luxe,
sont plus riches, tout simplement, j'imagine.
Oui, peut-être dans le luxe, mais moi j'ai travaillé dans du 4 étoiles avant.
Oui.
Honnêtement, je flambais pas en soirée après avec des pourboires.
Ouais. Alors c'est vrai, à Paris, dans des restaurants, c'est vrai que parfois, moi je vois que les gens laissent un peu, alors je sais pas si c'est 2, 5 euros de temps en temps, ça peut se faire pour le service.
Oui, peut-être à Paris, mais à Lyon, en Bourgogne, enfin il faut voir un peu plus loin que la région.
Non mais vous avez raison. Comment
c'est un petit peu ridicule comme mesure. Enfin voilà, nous on attendait, je sais pas, une baisse des charges, des choses comme ça, mais là c'est.
Vous trouvez que c'est un peu grotesque. Bon écoutez, c'est intéressant d'avoir eu ce témoignage. On va être avec Olivier aussi, mais. J'ai un peu réagi comme vous, pour tout vous dire. J'ai dit des pourboires défiscalisés. Déjà, je pas de charge pour l'employeur. Je saisis pas. C'est-à-dire qu'il y avait pas de charge. C'est-à-dire que quand il y avait 3 ou 4 euros de plus que vous rétrocédiez, aux salariés, alors les 3 ou 4 euros, il y avait des charges dessus. Je comprends pas pour tout vous dire, je comprends pas très bien cette mesure.
Qu'il a fait une pièce de 2 euros en partant sur le comptoir le matin en réception.
Ouais.
Et donc, c'est l'équipe.
2 euros, mais franchement, je vais vous dire, celui qui laisse une pièce de 2 euros en réception de pourboire, si moi je suis serveur, je lui dis, je fais pas la manche, quoi. Je veux dire, je trouve que c'est
pas.
Non,
mais 2 euros, on dit merci monsieur et à bientôt. C'est... Non, je vous assure que. Ouais, je pense qu'il y a.
Je trouve que c'est limite.
Il y a un écart peut-être entre Paris et puis le reste de la France. Mais non, aujourd'hui, c'est très très rare. Le client qui vient, qui dépense 100, 150 euros dans notre hôtel, c'est très très rare qu'il laisse 10 euros.
Non, mais à l'hôtel, traditionnellement, on laisse pas forcément de pourboire. On laisse des pourboires Ou au café, ouais, par exemple, vous prenez un café, ça coûte, à Paris, il coûte 2,50 €, le café, ou 2 €, bon, vous laissez 3 € et vous pouvez laisser 40 centimes ou 50 centimes, j'imagine que ça se fait de cette manière-là. Donc, des cafés, dans des restaurants, à l'hôtel, c'est moins l'usage, il me semble qu'on laisse pas, moi j'ai jamais laissé de pourboire à l'hôtel, par exemple.
Oui, c'est parce que là, c'est l'hôtel et le restaurant qui fonctionnent ensemble, les clients mangent au restaurant, puis leur facture se poste en fait sur leur chambre d'hôtel. Donc voilà, là c'est un petit peu le client laisse pour les différents services qu'il a eus. Mais non, je vous assure, je ne sais pas qui vit avec des pourboires, mais j'en connais pas. Je veux bien comprendre.
C'est intéressant. C'est intéressant. Effectivement, voilà. En fait, le pourboire, ce qu'il faudrait dire, c'est que qui vit avec du pourboire, dans des hôtels de luxe, sans doute, ce qu'on appelait les chasseurs dans le temps, ça doit toujours exister. Donc ça, effectivement, ils reçoivent du pourboire dans des endroits un peu luxueux. Mais autrement, et c'est intéressant votre témoignage, vous, c'est un hôtel combien d'étoiles?
C'est un hôtel 3 étoiles.
Ouais. Mais c'est intéressant votre témoignage parce que c'est le témoignage de la réalité. Vous dites, il n'y a pas de pourboire chez moi.
C'est ça.
Et bien ça, c'est très intéressant. C'est merci Émilie. Émilie Jolie.
Je vous en prie, avec plaisir.
Je t'appelle Émilie Jolie. 14h18.
J'ai l'avoir en tête.
Ah oui, mais c'est pas mal d'avoir en tête cette chanson. C'est bien.
C'est jolie. Merci Pascal.
Je vous en prie. Moi, j'ai pas de chanson à mon nom, à mon prénom. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
À 14h21, nous sommes avec Olivier qui habite Lyon.
Bonjour
Olivier, et qui nous parle du pourboire. Vous en parlez côté consommateur ou côté salarié?
Côté étonnement, moi, parce que moi c'est les mots employés, l'attractivité. Enfin, si on attend l'attractivité justement du pourboire pour refaire partir une branche professionnelle qui est les serveurs, enfin je veux dire, de qui se moque-t-on, quoi? C'est juste hallucinant. Alors on est en droit de se dire, mais en fait ces gens-là ne gagnent pas leur vie, ce qui peut être certain, mais un pourboire n'a jamais fait de salaire. Enfin, je veux dire, c'est juste hallucinant, quoi.
Mais
comme l'auditrice avant le disait, il y a certainement, c'est sûr, Paris, les grands hôtels, les grands pôles, et puis, il y a la.
C'est dans le temps, les garçons de café, je crois que c'était aux fleurs, c'était quasiment des charges. Tu vendais quand tu sortais quand tu terminais ta carrière, tu vendais quasiment à un jeune ta place parce que c'était une manne de pourboire. Mais c'était il y a 20 ans, 30 ans, je ne sais pas si c'est
existant. Oui, mais c'était avant.
Oui, c'est possible.
Et puis maintenant, en plus, comme ça a été dit, avec le paiement en carte bleue, les pourboires, c'est de moins en moins.
C'est vrai.
Moi, je veux dire, c'était plutôt mon accent sur les mots employés, l'attractivité. En fait, c'est hallucinant quand on entend ça. Ça m'a fait presque tomber de ma chaise, je vous dis encore une fois.
Vous êtes quoi? Vous êtes de quel côté de la barrière, si j'ose dire?
Moi, je serais plus consommateur.
Mais vous laissez du pourboire?
Personnellement, ça m'arrive, mais pas tout le temps.
Par exemple, la dernière fois que vous avez laissé un pourboire,
dernière fois, ça remonte à... Là, on peut compter en années, donc je ne me souviens plus. avec tout ce qu'on a croisé.
Et pourquoi vous ne laissez pas de pourboire? Parce que vous trouvez que le service... Par exemple, aux États-Unis, le service n'est pas inclus. En France, le service est inclus. Vous trouvez que...
Je pense que c'est peut-être pas inscrit dans les gènes, quoi, tout simplement. C'est peut-être une habitude. C'est peut-être... Il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte. Ça va peut-être aussi dépendre de l'humeur du moment. Peut-être qu'il y a... C'est parce que les pourboires, c'est pareil. J'entendais l'auditrice précédente. Faut pas s'attendre à des billets de 50 euros. C'est souvent de la petite monnaie.
Bien sûr. Merci Olivier, en tout cas. Comme il est 14h23, je suis obligé de vous interrompre, malheureusement, puisque c'est le débrief de Laurent Tessier. C'est non pas un pourboire qu'il nous donne à la fin de l'émission. C'est vraiment quasiment... l'essentiel.
Vous pouvez m'en donner un, par contre?
Attendez, ce serait humiliant. 14h24, le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Démarrons par des messages d'amour de politique pour ce débrief. Marlène Schiappa.
Votez Laurent! Votez Laurent!
Merci Madame Schiappa. Oui Manuel Valls, vous êtes prêt vous aussi pour le premier débrief de la semaine?
Laurent, j'irai jusqu'au bout.
C'est trop d'honneur. Alors allons-y Damien Béchiot à la console pour le premier débrief de la semaine. On l'appelle le mur de la honte. Un mur a été construit vendredi entre Paris et Pantin pour bûcher un tunnel et ainsi empêcher les consommateurs de crack de passer. Que faire pour les toxicomanes? La proposition ironique de Laurent.
Mettez des ours dans le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, vous verrez, il y aura moins de problèmes la nuit.
Oui.
Mais écoutez, au lieu de, c'est bien de mettre les ours chez les autres. C'est un peu le même système.
Qu'on mette des ours bord de la chapelle, mais je suis pas sûr que ce soit la solution.
Plus sérieusement, Michel habite Pantin et elle a vu la situation de son quartier se dégrader.
Je suis à 3 minutes des Gracqueux. J'ai mon quartier qui a complètement changé. C'est un quartier pourri. On n'a pas peur et on appréhende. Maintenant, on regarde devant, on regarde derrière.
Et sinon, dans l'émission, je me sens soutenu. Je suis touché par les propos de l'ami Pascal, un ami, un voisin de bureau, un camarade de Loire-Atlantique.
Après la leçon de vie, au revoir et bon après-midi, la leçon de débrief, comme tous les jours, avec Monsieur Tessier. Moi, je crois en Laurent Tessier.
Que dire après tant d'éloges? Ça me touche énormément. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez moi, Pascal?
Je crois en son... À tout de suite.
On ne saura jamais. Sinon, Julien Courbet était très en forme ce midi.
Le débat, on veut pro. Bébé, go.
Une manifestation, vous l'entendez actuellement, avenue Nuit, qu'en est-il?
C'est la victoire de Bordeaux qui vous a mis dans
ce... Non, ils n'ont pas gagné, figurez-vous.
Bah oui, je sais.
Bah oui, bah alors vous allez vous calmer là-dessus, s'il vous plaît, parce qu'on ne perd plus, monsieur.
Mesdames, messieurs, je suis désormais aussi engagé dans une mission de solidarité internationale. Grave pour Olivier, notre monsieur réseaux sociaux, notre monsieur Boubouk pour les intimes après 2h du matin au Macumba.
J'ai pas encore trouvé ma dulcinée.
Et est-ce que vous pensez qu'une femme a envie de faire des enfants avec vous? C'est aussi une bonne question que vous devez vous poser.
Je ne pense pas aussi.
J'espère que les choses vont s'arranger quand même.
J'espère aussi.
Qui saura, mais cette histoire lui monte à la tête. Tiens un exemple quand on parle des photos d'Éric Zemmour dans Paris Match.
Il y a une forme de... ça le sex-appelise, si j'ose dire. Oui. Le sex-appeal. Il est possible que lui-même, qui avait une image différente, et on se dit, tiens, voilà un garçon qui est capable de séduire une jeune femme. Peut-être, je n'en sais rien.
Bah, en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien, Pascal. Voilà, ça, c'est un fait. Rien.
Oui, c'est-à-dire, où voulez-vous en venir, Olivier? On ne comprend pas.
Bah, pour l'instant, il n'y a pas de séduction, pas de sex-appeal, c'est ça.
Mais de qui parlez-vous?
Ah oui, de qui parlez-vous, Olivier?
Je parle de moi, Pascal.
Ah, vous ne parliez pas à moi? Non, je parlais d'Éric Zemmour.
Ah, la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette.
Ah oui, vous avez raison, Pascal. Olivier, quand même.
Non, je parlais d'Éric Zemmour. Il est possible que ça sex-appelise, même si le mot n'existe pas.
Sex-appelise, pourquoi pas? Je comprends mieux pourquoi les Anglais ont voté le Brexit. Mais qui a recruté M. Boubouk? Demandons alors à notre chef du service politique de RTL, Benjamin Sportouche.
Monsieur Sportouche.
Eh bien voilà, vous m'avez réclamé.
Ah, toujours le premier à obtenir une info. Qui est le responsable de ce recrutement?
Eh bien, on ne sait pas.
Eh bien, merci Benjamin, revenez quand vous voulez. Alors, Monsieur Boubouk trouvera-t-il sa Madame Twitter, Madame Tutter? On est à l'époque des réseaux sociaux. Vous pouvez, oui, nous envoyer un message sur la page Facebook de l'émission ou sinon le contacter directement. Monsieur Boubouk vous intéresse? Vous souhaitez échanger avec lui sur Marcel Proust? Contactez-le directement au 07 61. Oh non, on arrête tout de suite. Bon, Michel souhaite venir nous voir dans les locaux et ça vous donne une idée, Pascal.
On enverra Olivier qui sera son chevalier servant ce jour-là. Ah. Michel me paraît peut-être adapté à une rencontre, en tout cas amicale. Amical.
Ouais. En même temps, Olivier est-il vraiment à la recherche de l'amour? Jean-Alphonse Richard, notre espion, alors en pleine méditation nocturne, l'a croisé récemment en pleine nuit et il a enquêté pour nous, votre bilan.
On finit par s'y perdre, il a des maîtresses dans tous les coins. Et...
ouais, un dernier mot, monsieur Boubouk, pour les potentiels intéressés, faites-les rêver.
Vous êtes pour l'autoroute à 130 ou à 110? Ou vous en fichez?
Alors moi, sur l'autoroute, je n'y vais pas parce que ça va trop vite. Ça me fait un petit peu peur.
Ah, vous allez faire rêver les femmes. Et vous aviez une remarque sur l'émission, Pascal?
J'ai beaucoup de plaintes parce que l'année dernière, on avait quand même un peu plus de chansons. Que cette année. Donc beaucoup disent
oui,
la saison.
À l'auditeur, parce que...
la saison se passe sans musique. Et...
alors passons la chanson préférée de Monsieur Boubou quand il se lève le matin. Ah oui, vous l'imaginez dans son appartement. Jean-Alphonse Richard, un commentaire sur cette playlist.
C'est une chanson qui réveille.
Ah merci Jean-Alphonse. Revenez aussi quand vous voulez dans cette chronique. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson de Monsieur Boubou.
Remarquable, je suis sûr que Jean-Alphonse ne nous en voudra pas, mais on est un poil en retard.
Ouais, on va essayer de rattraper.
Vous rendrez 5 minutes d'avance.
Tout de suite, je vous propose la tuerie de Louvciennes dans l'heure du crime.